Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à notre journal sur Radio Kapi. Nous sommes ravis de vous retrouver pour vous présenter les nouvelles les plus importantes de ce samedi. Voici les principaux titres. Kinshasa au cœur des discussions pour la paix. Le 9e sommet de la CIRGL s'est ouvert ce samedi sous le thème « Consolider la paix et la sécurité pour le développement ». L'Union africaine exige la fin des exactions contre les civils et appelle à un accès humanitaire sécurisé dans les zones sous occupation rebelle. La voix de son voix alerte sur la démocratie en danger. L'ONG dénonce l'absence de pluralité dans l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale et appelle les autorités à préserver les jeux démocratiques. Parole à l'invité en fin de journal. Nous donnons la parole à Barthélémy Ngwangou, membre de la commission diocésaine Justice et Paix. Il revient sur les graves exactions commises par les miliciens Mobondo dans plusieurs provinces, leurs conséquences humanitaires et plaide pour une solution durable impliquant tous les acteurs. Ces numéros s'ouvrent sur une information majeure. Kinshasa accueille ce samedi le 9e sommet de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, placé sous les thèmes « Consolider la paix et la sécurité pour le développement dans la région de Grand Lac ». Ces rendez-vous rassemblent plusieurs délégations de haut niveau. Le représentant de l'Union africaine, Skahir Mbarek Saïd, a lancé un appel ferme à la cessation des exactions contre les populations civiles dans les zones sous occupation rebelle et a plaidé pour la mise en place d'un couloir humanitaire. Écoutons Skahir Mbarek Saïd.
L'Union africaine salue vos efforts, Monsieur le Président, ainsi que les efforts des gouvernements congolais et rwandais pour la signature de l'accord de paix du 27 juin à Washington, la déclaration des principes du 19 juillet à Doha entre le gouvernement de la RDC et la FCM23. Ainsi que de l'accord du 14 octobre relatif au mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Face à la crise humanitaire et aux souffrances des populations civiles dans les zones occupées par les rebelles, nous condamnons fermement les crimes contre les populations civiles et les activités du mouvement du M23 ainsi que celles d'autres forces négatives, notamment les ADF, les FDLR, les Red Tabara, et d'autres groupes armés nocifs opérant dans la région. Pour ce faire, nous exigeons un accès humanitaire sûr et sans entrave aux populations dans le besoin, la protection des civils, la restauration des services essentiels à Goma et à Bukavu, et ainsi que dans les autres régions touchées.
En marge de cette rencontre, le président Félix Tshisekedi prend la tête de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL pour un mandat de 2 ans, succédant à l'Angolais João Lourenço dans son discours d'acceptation prononcé ce samedi lors de l'ouverture du 9e sommet. Le chef de l'État congolais a annoncé que ce mandat sera axé sur des résultats concrets déclinés en plusieurs priorités. Écoutons Félix Tshisekedi dans cet extrait.
Notre mandat sera à cet effet un mandat de résultat articulé autour de 5 priorités qui sont 1. La réforme institutionnelle de la CIRGL, 2. Le rétablissement et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, 3. Le renforcement de la coopération judiciaire, 4. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles au travers d'un programme effectif de traçabilité des minerais. 5. L'intégration économique régionale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le temps nous presse d'agir pour faire de la région des Grands Lacs un véritable espace de paix, de sécurité et de développement. Notre présidence sera intransigeante sur les principes souveraineté, intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouverte au dialogue en vue des solutions politiques et durables inclusive des femmes, des jeunes, des autorités locales et des communautés.
Présente au 9e sommet de la CIRGL, les Nations Unies réaffirment leur soutien aux différents processus en cours pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC. C'est le message du secrétaire général des Nations Unies dont le discours a été lu ce samedi à Kinshasa lors de l'ouverture de la conférence. Antonio Guterres appelle à la fin des hostilités dans l'Est du pays et insiste sur la nécessité de rétablir la confiance entre États voisins. Écoutons Wang Xia, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies.
Ces processus de paix complémentaires doivent maintenant être concrétisés par des actions tangibles sur le terrain. Les hostilités dans l'est de la RDC doivent cesser immédiatement et l'accès humanitaire doit être garanti afin d'apporter de toute urgence l'aide nécessaire à toutes les populations touchées. La résolution 2773-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies doit être mise en œuvre sans plus tarder. Il faut également rétablir la confiance entre États voisins. Trop souvent, la méfiance et les accusations réciproques nourrissent la spirale de la violence. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ainsi que la non-adhérence, sont des fondations indispensables à la coexistence pacifique.
Autre fait marquant, c'est samedi 15 novembre, les délégués du gouvernement congolais, ceux de la rébellion AFC M23, ont signé à Doha un accord cadre destiné à encadrer la poursuite des négociations en vue d'un accord de paix global. Selon les informations recueillies par actualité.cd, il ne s'agit pas d'un texte définitif, mais d'un document fixant la méthodologie et le calendrier de discours à venir. Cet accord cadre prévoit l'élaboration de plusieurs protocole dont les deux semaines suivant la signature, ils porteront notamment sur l'accès humanitaire, les arrangements sécuritaires et les DDR, la restauration de l'autorité de l'État, le retour des déplacés et réfugiés, la relance économique ainsi que la justice transitionnelle. Ce texte insiste également sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du conflit, de lutter contre la discrimination, de renforcer l'unité nationale et de mettre en place une gouvernance inclusive. Pendant ces temps, sur le terrain à l'est du pays, dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu, une nouvelle attaque meurtrière attribuée aux ADF a sémé la psychose dans la localité des Biambwe, située à environ 42 km de Butembo. Au moins 20 civils ont été tués et plusieurs maisons incendiées dans la nuit de vendredi à samedi. Les assaillants ont également ciblé une structure de santé locale. Marc Marofimbo nous donne les détails.
Les ADF ont ciblé les centres de santé de référence de Biambwe, où les assaillants ont tué, pillé des médicaments et incendié des maisons voisines. Les bilans provisoires est de 20 civils tués, dont 18 malades qui recevaient des soins dans cette structure sanitaire et deux autres calcinés dans leur maison le long de la route de Mabiango. La société civile plaide pour des opérations militaires de grande envergure dans cette zone, devenue théâtre de tuerie des civils par les ADF. Kakule Samuel est le président de la société civile dans le secteur de Bapere.
Il y a toujours des psychoses, la population continue toujours à quitter Mangre. Je ne suis pas vers Butembo, mais le grand problème, voilà aussi la route qui cherchera à être bloquée par rapport à l'incursion de Biambo. L'IPDF a bombardé les positions. Leur mission serait de venir se ravitailler à médicaments. Comme recommandation, nous avons voulu à ce que la question ADF soit prise avec grande attention. Ils veulent à ce qu'on s'encouffre dans la zone pour nous éliminer. La route doit être protégée pour faciliter aussi le déploiement des militaires et aussi utiliser d'autres engins pour pilonner les positions des ADF. Après les avoir détectés, on utilise les avions pour les bombarder.
Nous n'avons pas pour le moment eu la réaction des autorités administratives et de l'armée. Cette attaque survient après une série de bombardements de l'armée contre des positions des ADF dans la région de Mangurejipa. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Restons dans la région. La situation humanitaire continue de se détériorer dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru, notamment à Bambo, Kishishe, Katiro, Kabizo, Bambo Centre et Nyanzale. Les violences récurrentes, les déplacements massifs et l'absence d'assistance plongent des milliers de familles dans une précarité extrême, dans l'attente d'une accalmie. Selon les autorités locales, plus de la moitié des habitants ont fui leur village pour se regrouper à Bambo, jugé un peu plus sécurisé. Mais là aussi, les conditions restent très difficiles. Écoutons Isaac Kibira, notable des Bambo, qui décrit la situation et appelle les organisations humanitaires à renforcer l'aide d'urgence pour éviter une catastrophe.
La situation humanitaire devient catastrophique. Alors, après avoir détruit les bananeraies se trouvant le long des routes qui mènent vers les différents groupements, voire si même à l'intérieur des champs, on avait coupé les bananeraies, les maïs, les maniocs. Alors la population autochtone avec les déplacés, en tout cas, traverse les moments les plus difficiles de la vie, car ces derniers temps, la population locale n'a pas cultivé suite aux différentes opérations et cela causerait toujours de la famine dans la zone. Nous demandons aux humanitaires de bonne volonté de pouvoir passer dans la zone et que le gouvernement puisse collaborer avec ces humanitaires pour qu'ils viennent à rescousser aux rescapés et autochtones, en tout cas qui sont dans une situation humanitaire sans précédent. Au gouvernement, toujours de ménager aucun effort pour que la paix reviennent dans la zone et que les déplacés puissent rentrer chez eux et avoir la paix et vaincre normalement à leurs occupations.
Les acteurs humanitaires signalent que l'accès à la zone demeure extrêmement difficile en raison de l'insécurité persistante, ce qui complique l'acheminement de l'aide. La voix de son voix pour le droit de l'homme tire la sonnette d'alarme d'après son communiqué sur l'absence de la démocratie à travers l'élection de deux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Elle demande aux autorités congolaises et aux responsables des partis politiques de ne pas tuer la démocratie avec des choix uniques au poste électif. On écoute ici le directeur exécutif de la voix de son voix, Rostin Makenta, au micro de Jeff Ngoyo.
L'Assemblée nationale, en tant que temple de la démocratie, doit être exemplaire en matière de compétition électorale pour inspirer les autres institutions. Elle devrait prêcher par l'exemple en privilégiant la compétition via l'acceptation du dépôt de plusieurs candidatures en lieu et place du choix d'une candidature unique, parfois imposée, ce qui risquerait de mettre à mal la démocratie en République démocratique du Congo. La voix des 100 voix rappelle que l'univers politique est un monde compétitif. Elle exprime donc ce regret et dénonce l'élimination, parfois sans raison valable, de plusieurs candidatures de personnes qui auraient voulu postuler.
À Matadi, une explosion de camion-citerne a provoqué un incendie majeur ce samedi matin sur la route nationale numéro 14 à hauteur d'Angoango. Le véhicule appartenait à l'entreprise Erescom Petroleum. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, présent sur le lieu, indique que le sinistre a détruit les camions-citernes, un camion remorque, des câbles électriques, des habitations, des boutiques et deux garages. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée grâce à l'intervention rapide des équipes anti-incendie de deux sociétés locales. L'autorité urbaine pointe le mauvais état de la route nationale numéro 14 qui mène à la frontière angolaise comme cause probable de l'accident. Elle appelle à une réhabilitation urgente pour éviter de nouveaux drames. Écoutons Dominique Nkodiambete au micro de Nana Plurish Mambou.
Nous avons constaté qu'il y a eu un véhicule citerne transportant du carburant qui s'est renversé juste sur la voie. Alors vous voyez, quand un véhicule contenant de l'essence se renverse, ce choc-là provoque souvent un incendie. C'est ce qui a eu lieu dans les parages. On n'a pas enregistré des morts, mais quand même quelques maisons qui sont sur la voie principale ont pris feu. Mais les sapeurs-pompiers sont vite arrivés pour intervenir. Déjà, la situation est maîtrisée, mais on continue à à observer. Si nous pouvons parler des causes qui ont fait que les véhicules se renversent, c'est l'état de la route. Je crois qu'après les ponts Vodacom, chaque fois qu'il y a pluie, il y a patinage des véhicules, donc la route n'est pas en très bon état. Alors ce véhicule qui a patiné s'est renversé finalement. Donc la route nationale numéro 14, qu'on doit vite réhabiliter pour que ce genre de situation ne puisse plus se reproduire, parce qu'il y a beaucoup de garages, de véhicules poids lourds, il y a la frontière également de ce côté. Donc vraiment, c'est une urgence.
Actualité internationale.
L'Assemblée nationale du Bénin a adopté ce samedi 15 novembre à l'aube une révision constitutionnelle à la majorité qualifiée de 4/5 avec 90 voix pour et 19 contre. Cette réforme introduit deux changements majeurs dans l'architecture institutionnelle du pays, la création d'un Sénat et l'allongement de mandats présidentiels et législatifs qui passent de 5 à 7 ans à partir de prochaines élections prévues en 2026. La limitation à deux mandats présidentiels reste inchangée. Le Sénat présenté comme un conseil de sages comptera entre 25 et 30 membres issus de membres de droit et des personnalités désignées comme avec une limite d'âge fixée à 85 ans. Sa mission sera de réguler la vie politique et de renforcer l'unité nationale, la démocratie et la paix. Il pourra demander une seconde lecture de toute loi votée à l'Assemblée nationale à l'exception de certaines comme la loi des finances. La deuxième modification concerne la durée des mandats électifs. Le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans, renouvelable une seule fois, et celui des députés s'allonge également à 7 ans. Cette réforme suscite une vive attention chez les Béninois sensibles aux changements constitutionnels. En attendant la version finale corrigée, le citoyen reste impatient d'en connaître toutes les implications.
L'invité.
Dans son rapport publié le mercredi 12 novembre à Kinshasa, la commission diocésaine Justice et Paix alerte sur les graves exactions commises par les miliciens Mobondo contre les populations dans les provinces du Kwilu, Kwango, Maïndombe, Congo central et même à Kinshasa. Invité de Radio Kapi, Barthélémy Ngwangu, membre de cette structure de l'Église catholique, souligne que l'activisme de ces miliciens provoque des déplacements massifs et des pénuries alimentaires liées à l'absence de cette saison culturelle. Selon lui, une solution durable exige l'implication de tous les acteurs. Il en parle avec Blaise Ndongala Mayanda. Suivez.
Bonjour, monsieur Barthélémy Ngwangu.
Bonjour, messieurs les journalistes.
La commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa vient de publier les rapports à mi-parcours des recherches sur la crise Mobondo. Quelles sont les grandes lignes à retenir de ces documents?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Si nous présentons ces rapports aujourd'hui, on a constaté que dans notre pays, dans la plupart des cas, on s'intéresse plus de l'est du pays. Mais on est en train d'oublier qu'ici, aux portes de Kinshasa, à l'ouest, il y a aussi un problème par la milice Mobondo où les gens sont en train de décéder chaque jour. Et la commission, en collaboration avec IPIS et la Caritas International en Belgique, ont mis sur pied une enquête pour aller puiser les causes profondes de cette milice Mobondo, leurs motivations et les revendications des uns et des autres, ainsi que les causes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on est venu présenter ces rapports, pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe ici à Maluku, aux portes de Kinshasa.
Ces rapports concernent quelle période?
C'est un rapport qu'on a commencé depuis le mois de mai de cette année. Ça, c'est la première publication. Je pense que dans les jours qui suivent, nous allons encore la présenter en Belgique et puis en France. Donc, c'est un rapport qu'on vient de présenter, qu'on a mis de recherche pendant cette année.
Combien de morts, combien de blessés, combien d'infrastructures des bases détruites au cours de cette période?
On a présenté aujourd'hui d'abord le nombre de déplacés, puisque sur le plan humanitaire, les conséquences sont énormes. Il y a plusieurs personnes qui sont déplacées sans abri. Il y a des écoles qui sont envoyées sans fonctionnement. Il y a cette saison perdue. Comprenez que le plateau de Bateke ici, c'est ça qui nourrit même Kinshasa avec la chikwanga que nous connaissons tous et la braise. Alors quand vous perdez déjà cette saison sans cultiver, imaginez les conséquences. Donc même Kinshasa en pâtisse.
Vous parlez des déplacés, vous estimez à combien?
En tout cas, c'est plus de 3000, puisque le rapport de l'EIM que nous on a documenté, il a présenté un rapport seulement par l'année 2024-2025 plutôt, 280 000 personnes déplacées. Imaginez, c'est seulement une année. Et si nous faisons un pas en arrière, commencer de 2022 que la crise a commencé, commencé jusqu'à aujourd'hui, donc le chiffre est énorme. Donc c'est un travail qui est en train d'être fait, ce n'est pas encore fini. Nous continuerons toujours avec des recherches. Imaginez que ça ne fait pas 5 jours passés qu'on a attaqué Kingakati. C'est pour dire que les statistiques vont continuer à être documentées à tout moment.
C'est pour quel espace géographique?
Oui, la milice Mobondo couvre les plateaux de Bateke. Bon, pas seulement les plateaux de Bateke, ça couvre 5 provinces à ce jour. Il y a la province de Maïndombe, la province de Kwilu, la province de Kwango, la province de Kinshasa à Maloukourira et une partie du Congo central.
Mais c'est Mbangu, quelles sont selon vous les véritables causes de cette crise?
Oui, tout au départ on a parlé de la hausse des redevances qui était à la base de cette crise qui a commencé à Massiambé. C'est un village dans le territoire de Kwamutu, province de Maïndombe, où les fermiers ont revendiqué les hausses de redevances imposées par le chef coutumier Teke. Et c'est ce qui était à la base. Et vous vous rendrez compte que dans toutes les démarches qu'on a à faire, les interviews ainsi que les recherches, ça démontre que les hausses de redevances étaient un élément déclencheur de la cause de cette crise. Mais là où nous ne comprenons pas, cette crise qui a commencé pour la hausse de redevances à Kwamutu, mais pourquoi ça a évolué jusqu'à Kwamutu et jusqu'à Kinshasa plutôt, jusqu'à Kwango, à Kwilu, là où il n'y a pas existé la hausse des redevances. Donc c'est la question qu'on se pose, qui est derrière cette crise-là? Est-ce que pour une redevance coutumière, il faut tenir les armes et commencer à tuer les gens, messieurs les journalistes? Donc c'est une question inquiétante. Nous voulons qu'à partir de ces jours, que la communauté internationale, la République démocratique du Congo, les autorités, les obligataires publics, ne prennent pas cette crise comme si c'était une négligence. C'est ça que nous on a constaté. Il faut que tout le monde s'implique. On doit parler de cette crise pour que cette affaire prenne fin. Puisqu'on ne peut pas comprendre une affaire de redevance, on va commencer à tuer des gens. Et une redevance qui a commencé dans un coin pour se répandre jusqu'à d'autres provinces voisines. Donc c'est inconcevable.
Que répondez-vous à ceux qui pensent que la crise n'est pas identitaire, c'est plutôt politique?
Identitaire, plutôt politique, ce sont des questions de recherche, celles que je vous ai dit. Nous, on est sur le terrain. On a essayé de recenser les éléments avant la crise. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment certains indicateurs par rapport à cela. On est en train d'épuiser encore, certes, ce que je peux vous confirmer, vous avez suivi la présentation aujourd'hui, qu'il y a aussi quelque part des intentions politiques derrière la crise. Puisqu'on ne peut pas comprendre qui alimente la milice Mobondo avec des armes. Comment ils sont nourris puisqu'ils sont en forêt? Tout simplement pour commencer à tuer les paisibles citoyens. Avec les études que nous menons et ce qu'on a déjà commencé à entreprendre, l'aspect politique y est dedans et surtout qu'il y a plusieurs politiciens qui ont plusieurs étendues sur le terrain et c'est ce qui impacte.
Monsieur Barthélémy Ngwangou, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
C'était Barthélémy Ngwangou, membre de la commission diocésaine Justice et Paix. Il parlait des exactions des miliciens Mobondo et des conséquences humanitaires dans plusieurs provinces au micro de Blaise Ndongala Mayanda. Nous arrivons à la fin de notre journal. La mise en onde a été assurée par Alain Goy, la coordination éditoriale par Jude Mister Bilonda et la présentation par Gisèle Cage. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés. Mais en temps réel. Prenez soin de vous et à très bientôt.